Civisme et droits du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent?
Civisme et droits du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droits du citoyen, une émission de la web radio Awevi présentée par Spiro Maoulé.
Est-ce que les gens naissent pareils ou pas?
Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. Arwevi Info, l'information comme si vous y étiez.
Bien chers auditeurs de Arwevi Info, nous voici à l'heure de notre émission habituelle « Civisme et droits du citoyen ». Civisme et droits du citoyen, 50 minutes ensemble pour parler de la chose juridique, pour parler de la citoyenneté, pour parler du civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est ensemble tous les mardis et tous les dimanches. Bien de choses à vous. Thank you. Dans l'histoire de l'humanité, le vol a toujours existé. Quand je parle de vol, il ne s'agit pas du vol de l'oiseau, il ne s'agit pas du vol d'un avion. Il s'agit de prendre ce qui ne nous appartient pas. Le vol, je disais donc, a toujours existé et a pris la forme de pillage ou alors de rétablissement de la justice sociale. Le vol était une arme pour le puissant de démontrer qu'il a vaincu son adversaire. Il était justifié par la puissance physique ou militaire. Il était également un outil pour rétablir la justice sociale. Mais que ce soit pour une ou l'autre des raisons, le vol est un problème. Le vol, on retrouve par exemple dans la Bible l'histoire de grands rois. De grands rois qui revenaient des expéditions guerrières avec des butins qui étaient pris ou vaincus. On raconte aussi en Europe anglaise, c'est-à-dire au Royaume-Uni, l'histoire d'un certain Robin des Bois qui volait les riches pour donner aux pauvres. Le vol a plusieurs fortunes. Le vol sera apprécié positivement ou négativement selon la justification qui en est faite ou selon celui qui aurait volé. Cependant, il est clair que compte tenu de ses conséquences, le vol est bien évidemment classé dans les fautes. Sur le plan social, le voleur est un réprouvé social. Il est rejeté de la société. Sur le plan religieux, le vol est classé parmi les péchés. Et certaines religions vont jusqu'à le sanctionner très durement, allant des coups de pierre au fait qu'on puisse vous amputer une main. Ou pire, vous tuer tout simplement. Sur le plan juridique, le vol est également puni. Il est puni pénalement. Vous pouvez tout simplement payer des amendes ou finir en prison. Le vol est donc une mauvaise chose pour la société. Cependant, il existe particulièrement certains vols qu'on qualifie de vols domestiques. Suivant le code pénal de 1810, on a plusieurs qualifications du vol à raison du temps où ils ont été commis. C'est-à-dire, le vol ne sera pas vu de la même façon selon que ce soit la nuit ou que ce soit le jour que le voleur est arrivé. À raison du lieu de leur exécution, on ne va pas traiter le vol de la même façon que vous ayez volé dans la rue, dans un lieu sacré, dans un lieu administratif ou tout simplement chez un ami. On pourrait voir également la chose sous l'angle des circonstances qui les ont facilitées. Notamment, est-ce que c'est par escalade? Est-ce que c'est par effraction? Est-ce que c'est par utilisation d'une clé fabriquée? On peut voir également cela sous l'angle de celui qui a commis le vol, la qualité de l'auteur. Est-ce un domestique qui habite dans la même maison? Est-ce un service à gages? Est-ce un apprenti ou un aubergiste? Est-ce que c'est la faute d'un habitué qui est allé, par exemple, avec une arme? Selon l'appréciation, selon le contexte, selon les éléments dont nous venons de parler, il y a certains vols qui vont revêtir l'aspect de ce que nous appelons les vols aggravés. Il y aura donc des vols simples,
des vols aggravés. Et à partir du moment où vous aurez réuni un certain nombre de critères, un certain nombre d'éléments, comme j'en ai fait la liste tout à l'heure, votre vol va être aggravé. Et l'aggravation va consister à augmenter la sanction que la loi va vous donner suite à votre vol. Aujourd'hui, nous avons envie de parler non pas seulement du vol sur le plan juridique, mais également, il y a un aspect, certains diront social, d'autres diront médical. En tout cas, il serait intéressant de savoir, par exemple, pourquoi les gens volent. Quand nous aurons vu pourquoi les gens volent, nous pourrons donc tirer les conséquences du vol. Et puis, nous parlerons des sanctions du vol. Cependant, nous ne pourrons pas tenir en une seule émission pour en parler. Donc, nous aurons peut-être deux émissions pour éplucher complètement, éplucher au mieux cette thématique que nous appelons le vol. Parce que le voleur, il empêche de tourner rond. Le voleur empêche de dormir. Faites simplement l'expérience d'avoir quelques centaines de milliers de francs si vous êtes pauvre, ou d'avoir des millions dans votre chambre si vous êtes un riche, pour voir si vous dormirez en paix. Certains vous diront même qu'il vaut mieux être pauvre que riche, parce que le pauvre dort paisiblement. Le voleur vous empêche d'être à l'aise. Un seul voleur dans une maison, tout le monde est nerveux. Tout le monde a des difficultés de vie sociale. Le vol est un péché. Le vol est un fléau. Il serait donc intéressant de l'analyser. Nous commencerons évidemment par la définition et puis nous parlerons des causes. Mais avant cela, nous allons peut-être souffler un peu en musique. Oh, play it, boy. Le vol se définit, selon la loi, comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Soustraction, c'est-à-dire que vous avez pris de quelqu'un ou d'un lieu. Frauduleuse, ça veut dire que ce n'est pas de façon honnête. De la chose d'autrui, ça veut dire que ce que vous avez pris ne vous appartient pas. Donc, de façon très simple, le vol, c'est lorsque nous prenons de façon malhonnête ce qui ne nous appartient pas. Nous prenons ce qui ne nous appartient pas sans l'autorisation du véritable propriétaire. Nous prenons ce qui ne nous appartient pas en le dérobant au véritable propriétaire ou alors en ne connaissant même pas le véritable propriétaire. Dans tous les cas, ce n'est pas à nous. Mais si le vol est vu souvent comme une infraction contre les inconnus, si généralement les voleurs préfèrent s'attaquer à des gens qu'on ne connaît pas, utilisant parfois des armes, utilisant parfois des méthodes spirituelles, utilisant parfois la force, il y a aussi la possibilité de reconnaître qu'il y a beaucoup, beaucoup de voleurs dans nos propres maisons, dans nos propres lieux de travail, dans nos propres communautés. Des voleurs qui nous connaissent. Et il y a même un adage qui dit que le voleur, c'est toujours quelqu'un de proche. À tel point que l'expression « vol domestique » est née. Et ça se passe dans le cadre de la maison. Je dis tout de suite qu'il faut faire attention parce que quand il y a un certain lien de parenté, le vol va exister, certes, mais il y aura ce que nous appelons l'immunité familiale. Mais n'empêche, c'est un vol. Mais on se dit qu'on ne peut pas avoir volé son propre époux ou sa propre épouse. Mais n'empêche, c'est un vol. Dès lors que la chose ne vous appartient pas et que vous avez pris, c'est un vol. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'autrui dont parle l'article 411 du Code pénal du Togo n'est parfois pas une personne si éloignée de nous. Le législateur togolais a alors précisé un certain nombre d'actes qu'il considère comme le vol. Et il a cité cela à l'article 412 du Code pénal du Togo. Nous voyons par exemple dans cette liste-là la soustraction frauduleuse d'un véhicule ou d'une embarcation, même pour un usage temporaire. Ce qui sous-entend par extension le fait de prendre la voiture ou la moto de quelqu'un sans son autorisation. Même si vous connaissez la personne. La loi n'a pas dit que vous prenez le véhicule de quelqu'un que vous ne connaissez pas, même si vous connaissez. Le fait simplement d'avoir pris sans l'autorisation de la personne qui est propriétaire ou de la personne qui l'a légalement en sa possession suffit pour dire qu'il y a vol. On retrouvera le vol également dans les branchements, les modifications ou altérations frauduleuses d'installations de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone ayant pour but de soustraire en tout ou en partie l'utilisateur au paiement des redevances. C'est très fréquent dans nos pays de voir par exemple en raison d'un soi-disant bon voisinage, au lieu d'un lien très étroit entre deux voisins ou deux maisons dans lesquelles c'est des parents, vous verrez, par exemple, un seul qui soit connecté à l'électricité nationale et l'autre par des branchements bizarres et très dangereux, tire l'énergie à son profit. Ils se partagent peut-être le coût que ça donne. Mais est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que celui qui profite a obtenu l'autorisation réelle de jouir de cette énergie? Si oui, tant mieux. Sinon, ça voudrait dire que vous avez commis un vol. Vous n'avez donc pas le droit de brancher l'électricité à partir de la maison de quelqu'un qui l'a sans l'autorisation de l'institution qui l'a en charge. Dans les villages, on voit également que le législateur a prévu que la soustraction frauduleuse des récoltes sur pied constitue un vol. Nos amis qui, la nuit, vont dans les champs pour récolter à l'insu du véritable agriculteur les épis de maïs, pour prendre les racines des tubercules, pour faire des récoltes sans autorisation, pour prendre des tomates et autres. Ils commettent tout simplement ce que la loi appelle le vol. Mieux encore, le refus de restituer à qui de droit ou de déclarer à l'autorité compétente dans un bref délai une chose dont on est entré indûment en possession par erreur ou à la suite d'un cas fortuit constitue également un vol. Nous avons lu, par exemple, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'histoires dans lesquelles on vous dit, vous vous réveillez le matin, vous trouvez devant votre devanture, devant votre porte de la maison, un sac rempli d'argent. Devez-vous rendre ou devez-vous garder? Vous êtes en train de passer, vous avez trouvé beaucoup d'argent dans un sac. À moins que Dieu soit venu le déposer, c'est sûrement quelqu'un qui l'a perdu. Est-ce que vous ne devrez pas restituer? Est-ce que vous avez le droit de prendre et de garder ce sac? Si vous le gardez, c'est du vol. La loi dit que c'est du vol. Et vous-même, vous savez que vous êtes en train de voler. On laisse même l'hypothèse où on se dit que c'est quelqu'un qui a égaré 25 francs, 100 francs ou un billet de 1000 francs. Même dans cette hypothèse-là, vous savez très bien que ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas avoir dit, par exemple, que c'est un bien qui est tombé du ciel. Donc, vous êtes en train de le voler. Même si vous trouvez la chose, ce n'est pas dans toutes les circonstances que vous pouvez les garder. Cependant, on ne parle pas de vol sur les choses volontairement abandonnées par leur propriétaire. Quand un propriétaire est fatigué d'utiliser une chose et qu'il jette ça en un endroit et que vous prenez, là on ne parlera pas de vol. C'est souvent des choses qui n'ont plus de grande valeur en argent ou qui ont fait l'objet d'une utilisation jusqu'à satisfaction du propriétaire qui s'en débarrasse. Mais on connaît que c'est des choses qu'on trouve souvent dans des endroits que nous appelons très souvent les dépotoirs. Très souvent, on voit ça dans des endroits où on a l'habitude de jeter des choses. Un ventilateur usagé, un fer à repasser usagé que vous retrouvez quelque part et que vous prenez, c'est peut-être que le propriétaire s'en est débarrassé. Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre sans risque qu'on vous dise que vous avez volé. Mais en revanche, vous êtes coupable de vol lorsque vous appréhendez ces choses-là, alors que ça a été perdu. Ce n'est pas que le propriétaire a déposé, mais il a perdu, il a égaré. Et très généralement, c'est quelqu'un qui, quand il se rend compte de sa perte, fait des déclarations. Mais comme très souvent, nous n'écoutons pas les bonnes informations au bon endroit, on n'a pas connaissance que la personne qui a perdu ce que vous, vous pensez avoir trouvé, que cette personne est en train de rechercher. Mais est-ce que honnêtement, on doit garder par devers soi? ce qu'on n'a pas produit soi-même. Dans la Bible, nous lisons que nous mangerons à la sueur de notre front. Est-ce que trouver un bien au sol est suffisamment à la sueur de notre front? Est-ce que le soleil qui tape justifierait la sueur qui tombe? Ce n'est pas ça le sens de l'expression. L'expression voudrait dire qu'il faut travailler pour manger. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de distinguer une chose qui est abandonnée d'une chose qui est perdue. En droit, la jurisprudence, c'est-à-dire que les juges ont élaboré des critères pour dire ce qui peut être vu comme un abandon ou une perte. La valeur de la chose, son caractère neuf ou ancien, l'endroit où il a été trouvé, sont suffisamment d'éléments qui peuvent nous aider. Je disais tantôt, si vous trouvez au dépotoir un ventilateur qui semble neuf, mais au dépotoir, la chance qu'elle soit abandonnée est plus grande qu'elle soit perdue. Mais quand vous trouvez un porte-monnaie au dépotoir, la chance qu'elle soit perdue est plus grande qu'elle ne soit abandonnée. L'endroit donc, le caractère neuf ou ancien, la valeur même de la chose, la nature même de la chose peuvent nous donner des indications. Ainsi, par exemple, ont été considérées comme des choses perdues une somme d'argent découverte dans un lot de vieux objets, un billet trouvé dans un avion, des rouleaux de fil de cuivre, propriété des PTT qui ont été laissés sur la voie publique. Il a été jugé par ailleurs que le fait d'avoir déchiré, jeté une lettre dans une poubelle d'entreprise ne suffit pas à caractériser de manière certaine la volonté d'abandon du propriétaire légitime, qui, tant que les ordures n'ont pas été ramassées, peut toujours revenir rechercher son document qu'il a jeté. Ne relève pas non plus de la catégorie des choses abandonnées et peuvent alors faire l'objet d'un vol. Les bijoux et tous autres objets déposés dans les cercueils ou qui ornent les tombes, ainsi que ceux trouvés dans les caveaux, des fosses communes et des concessions non renouvelées. Le fait pour une famille d'avoir enterré un membre avec les bijoux ne consiste pas à dire que la famille a perdu les bijoux. Ça a un symbolisme. Ça signifie qu'on a donné l'argent pour et aux morts. Et donc, ce n'est pas une perte. C'est que légitimement, vous êtes censé ne pas ouvrir ce caveau, cette tombe, et dire alors que les biens ont été perdus et vous, vous avez trouvé. Il est donc important de savoir que l'abandon ou la perte évolue selon des critères assez objectifs qui permettent de dire si oui, ce que vous avez trouvé rentre dans la catégorie du vol ou alors c'est des choses qui sont perdues. On ne va pas continuer avec la liste, mais on se dit simplement que cependant, lorsque c'est établi, que vous-même, vous savez que la chose ne vous appartient pas et que nous ne sommes pas dans la situation d'une chose retrouvée quelque part pour envisager éventuellement une perte ou un abandon, si vous prenez cette chose-là, vous avez commis un vol. Pire encore, si vous êtes dans une situation de travail chez quelqu'un et que vous soutirez des choses chez cette personne-là, vous avez commis un vol. Et ce vol-là doit être puni parce que contraire à ce que la loi a prévu.
When I saw you and her. be. Most of all, I just don't wanna be free.
Tout le monde reconnaît le vol comme étant une mauvaise chose. Pourquoi avons-nous des voleurs dans notre société? Est-ce l'occasion qui crée le larron? Est-ce une maladie? Est-ce une bonne chose? Autant de questions que malheureusement on a fini par ne plus se poser. Le simple fait que vous soyez un voleur, le simple fait que la chose d'autrui a été dérobée, suffit pour condamner l'auteur de la chose. On ne se pose plus la question de savoir pourquoi il a fait ça. Parce que le pourquoi ne justifie nullement pourquoi la raison de ce qu'il a fait. Le pourquoi, ça viendrait peut-être alléger la sanction qui va être prise contre lui. Mais la victime n'a peut-être pas envie qu'on puisse diminuer la sanction. Et la victime est dans une situation où la victime ne veut même pas voir s'il y a des circonstances qui allègent. Pour elle, c'est d'abord et avant tout retrouver sa chose. Et ensuite, punir l'auteur de façon à ce que cet auteur ne recommence plus jamais. Pourquoi avons-nous des voleurs? Une première cause à noter est celle de l'enfance mal gérée. Avant l'âge de 5 ans ou de 6 ans, on ne parle pas de vol. Petit, les enfants explorent le monde qui les entoure avec le sentiment que tout ce qu'ils voient leur appartient. Ou en tout cas, qu'il ne leur est pas interdit de les prendre. Ils n'ont peut-être même pas la notion de propriété. Avant 5 ans, tout ce qu'ils trouvent, ils peuvent en faire usage. Rappelons-nous tous qu'un enfant de 2 ans au maximum, surtout 1 an, quand vous lui mettez entre les mains n'importe quoi, premier réflexe est de l'envoyer à la bouche. S'il ne peut pas, il jette. Il ne réalise pas que c'est pour vous, que c'est pour lui, que c'est pour un autre. Lui, il sait qu'il a le droit de l'utiliser. Certains volent, par exemple, pour offrir à quelqu'un qu'ils aiment, pour lui faire plaisir. Il pense que tout est à tout le monde. Petit à petit, l'enfant doit intégrer la notion de propriété, la notion de respect du territoire de chacun. Et il appartient aux parents de les amener à faire cela. Parce que malheureusement, quand vous avez un enfant sans savoir mettre la limite sur tout ce que l'enfant là peut toucher, généralement, ça finit par le fait d'avoir des enfants voleurs. L'enfant prend, vous reprenez, il pleure, et vous dites non, pour qu'il ne pleure pas, remettez-lui. Il a l'impression que tout est à lui, qu'il peut tout avoir par la force ou de droit. Il faut donc arriver à un moment donné Surtout lorsque l'enfant passe de 5 à 6 ans, il faut arriver à lui mettre dans la tête que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il a, ne lui appartient pas. Que c'est peut-être qu'on a mis simplement à sa disposition pour un temps, pour une utilité, pour une raison, et que normalement, ou bien c'est un bien qui est collectif et il faut en prendre soin, ou c'est un bien qui appartient à quelqu'un d'autre, à qui il faut rendre après, et donc il intériorise qu'il n'a pas la propriété de tout et que tout n'appartient pas à tout le monde, qu'il y a des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Quand un enfant continue à voler régulièrement au-delà de 5 ans, il faut s'en inquiéter. Son comportement cache une souffrance et va souvent de pair avec des problèmes scolaires, avec l'insolence, avec le mensonge. Dans ce cas, la responsabilité est partagée entre l'enfant et les parents. Après 5 ans, l'enfant doit avoir acquis la notion de propriété. Tout au moins, il doit savoir que ce qui ne lui appartient pas, il ne doit pas garder cela. Et l'enfant qui, à cet âge-là, ou légèrement au-dessus, qui cache ce qu'il trouve, en sachant que ce n'est pas lui, il a commencé à être un voleur. Et quand vous lui demandez qu'il ment ou qu'il ne veut pas dire où il a caché, sachez que cet enfant commence à avoir conscience qu'il sait qu'il est en train de voler. Et il va ajouter à ce vol-là les mensonges. Et vous verrez que même dans son éducation, dans sa fréquentation scolaire, il va commencer par avoir des petits trous dans les notes, parce qu'il est concentré à chercher parfois les méthodes pour mentir ou bien pour voler. L'éducation de l'enfant donc va être très cruciale. Cessons de chouchouter les enfants pour la simple raison qu'on a eu du mal à les avoir. Vous les avez déjà. Et donc, il faut leur donner une éducation telle que l'enfant comprenne ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Une autre cause du vol, c'est l'envie de ressembler à l'autre. En grandissant, c'est souvent le désir de s'identifier à un autre qui pousse un enfant à voler. Voler procure l'illusion magique que l'on va ressembler à l'autre, explique Marion Haza, une psychothérapeute. Un enfant est d'abord tenté par ce qui appartient aux gens qu'il connaît, qu'il aime et à qui il a envie de ressembler. Sa mère, son père, ses frères et sœurs ou ses copains. Vous verrez donc cet enfant voler, par exemple, la chemise de papa, les chaussures de maman, les crayons de son grand frère. Il veut être comme son grand frère et pourtant il n'a pas encore l'âge, il n'a pas encore les moyens. Mais il veut ressembler à. Et donc l'enfant qui vous voit vous habiller d'une certaine façon, qui commence par lui plaire, s'il n'a pas lui aussi un habit et que vous lui montrez que ça là c'est pour lui et que c'est ça qui lui convient, et que vous-même parfois vous lui mettez vos habits pour dire voilà, est-ce que ça va, vous lui inculquez le désir de prendre ce qui appartient à autrui. Parfois l'enfant va voler pour faire comme les autres, prouver qu'il est top, prouver qu'il peut être accepté par un petit groupe de gang. Surtout quand il va à l'école et qu'il a de mauvaises fréquentations, il a besoin d'intégrer les groupes. Et il commence par voler, si c'est ça la règle de ce groupe-là. Ou il commence par voler pour mystifier, pour apporter des choses qui vont plaire à ses autres, de sorte que ses autres l'invitent à rejoindre leur groupe. Il va chercher à montrer que c'est un caïd, comme on le dit, surtout avec les garçons. Ce comportement va s'accentuer à l'adolescence, avec des vols à l'extérieur de chez lui et de la maison, dans les magasins. L'adolescent veut faire l'homme. Il va parfois chercher même à boire, à fumer, de sorte que ses camarades trouvent que lui aussi, il est quelqu'un. Et les adolescents veulent pouvoir attirer l'attention en volant, surtout si c'est des filles, des bijoux, des toilettes, des produits de beauté pour montrer à leurs camarades qu'elles aussi, elles sont au niveau. Et là encore, si les parents ne savent pas se prendre à temps et qu'elle a intériorisé ça, elle peut devenir, ou il peut devenir, un malade du vol. Il va voler en ce moment-là, non plus simplement pour plaire, mais parce qu'il va croire que le vol est une bonne chose, que le vol est indubitablement lié à sa personne. Le ou l'enfant devient ce que nous avons l'habitude d'appeler un kleptomane. Il vole pour le plaisir de voler, surtout s'il n'éprouve aucune difficulté à voler à la maison. S'il vole les biens des parents, qui, parce que ayant un peu de moyens, ne contrôle rien du tout et laisse les choses à portée de main sans aucun contrôle. De sorte que l'enfant là devient un malade, sans savoir qu'il est malade. Et vous, vous ne savez pas qu'il est malade. Il va devenir un champion du mensonge et du vol, puisque les deux vont ensemble pour les enfants. Puisqu'il ne doit pas avouer qu'il a volé. Une autre cause, le vol peut être tout simplement une mauvaise compréhension ou une mauvaise communication. Entre parents et enfants, si la compréhension n'est pas là, si la communication n'est pas là, les parents vont fabriquer un voleur. Un enfant trop sévèrement élevé peut voler. Lorsqu'il ne rencontre pas l'attention, l'affection au sein de la famille dont il aurait besoin, et donc il va voler pour se consoler. Les objets qu'il vole ne sont pas forcément des biens qu'il désire. Les biens qu'il vole ne l'intéressent peut-être même pas. Il veut tout simplement s'éloigner des valeurs parentales, montrer qu'il est contre les parents, surtout si les parents ont pris l'habitude de lui dire qu'ils sont très intègres, ils ne volent jamais, ils n'ont jamais volé, ils n'ont jamais menti, et qu'ils tabassent l'enfant pour être ça. L'enfant va voler pour juste se montrer contre ses parents-là. Et le produit fini n'est toujours pas bon pour la société. Le vol peut donc être tout simplement une mauvaise éducation. Lorsque vous-même vous volez, en présentant aux enfants ce vol-là comme un sens commercial, une débrouillardise, une habileté, une adresse. Vous-même, vous volez devant l'enfant, vous mentez devant l'enfant au point qu'il est habitué, il est accoutumé au mensonge. Pour l'enfant, voler devient du sport. Enfin, les enfants que les parents ont oubliés, en ce sens qu'ils, parfois, ils oublient, mais qu'ils sont là et ils racontent leur prouesse en matière de vol ou en matière de mensonge, invitent leurs enfants à frauder. S'il vous arrive de mentir, de ne pas tenir vos promesses, de frauder, vous êtes un mauvais modèle qui sera copié par vos enfants. Soyez sûr, parce que le premier modèle des enfants, évidemment, c'est les parents. On n'a pas oublié l'adage qui dit « tel père, tel fils ». Volez devant vos enfants voleront. Si vous laissez vos enfants voir des films dans lesquels les voleurs n'ont pas été attrapés, mieux encore, les voleurs ont prospéré au point de devenir des caïds et qu'ils ont commencé par faire des dons, parce qu'il y a des films bizarres comme ça, où on montre que le voleur est devenu une bonne personne. Si l'enfant aime ce film, l'enfant risque d'imiter l'acteur principal. Il va penser qu'il peut voler au point qu'il va devenir bon avec les gens. Il va oublier que pendant qu'il vole, il fait du mal à d'autres personnes. Nous allons terminer cette liste-là avec une autre catégorie, un peu plus malsaine encore, de vol. Cette catégorie qui est fondée sur l'idée de vengeance. Révélateur de la précarité sociale accrue dans laquelle sont plongés les gens de travail, les vols domestiques sont moins souvent dus à une situation d'extrême nécessité plus qu'à une volonté de revanche sur la dureté et la précarité des conditions de vie et de travail. Car si le statut social des serviteurs est fragile, il les met généralement à l'abri de la misère des plus démunis. Aussi, le vol domestique est-il régulièrement présenté par ses auteurs comme une pratique de compensation, de frustration ou de vengeance. Nous voudrons faire allusion aux domestiques, à ces personnes que nous appelons généralement les serviteurs de maison, qui entre-temps, même dans la société togolaise, sont vus comme de grands voleurs, qui ont dévalisé plein de maîtres, soit parce que ils sont frustrés de leur situation, soit parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de punir le maître. Ils sont en train de compenser les injustices créées par la vie. Ils volent. Devant le juge d'instruction, les salariés, par exemple, accusés de vol, justifient fréquemment leur acte par le fait qu'ils n'ont pas été payés à temps ou qui sont payés insuffisamment au regard du service rendu. Voilà une des justifications. Un mode d'auto-justice, de contestation. Le vol domestique serait donc un moyen parmi d'autres de lutte contre les inégalités sociales et le pouvoir du maître. En général, le vol domestique est vu comme une circonstance aggravante en raison de la confiance que le maître a dans ce domestique qui est en train, comme le dirait quelqu'un, en train de le poignarder dans le dos. En 1817, il y a eu un cas qui a retenu l'attention de plus d'un. Il s'agit d'une dame, Marie Sardin, en France, qui est une servante de ferme d'un couple de cultivateurs propriétaires du village, d'une ferme dans un village, et qui a été déférée à la cour d'assises pour avoir volé à différentes époques de l'argent. Et elle a volé de l'argent, elle a volé des effets mobiliers, elle a volé des denrées alimentaires à ses maîtres. Et les produits de ces vols ont été retrouvés dans l'armoire de son logement personnel. Lorsque le juge a parlé de fourberie, que cette femme-là jouissait d'une confiance aveugle de ses maîtres, il a été facile de montrer que cette dame-là a envers elle des circonstances aggravantes. Elle a usé de la confiance que les maîtres avaient en lui, en elle, pour voler. Et très généralement, la plupart des personnes qui disposent des domestiques peuvent dire que la maison est donnée aux domestiques en allant au bureau. Les domestiques sont plus souvent chez vous à la maison que vous-même dans vos propres maisons. On ne sont pas dans le système européen où les domestiques viennent travailler quand vous êtes là, après vous fermez la porte, ils partent vous fermer la porte et vous allez où vous voulez. Là, les domestiques sont là. Les domestiques vivent avec vous. Les domestiques ont même plus accès à vos repas que vous-même. Et du coup, l'histoire n'est pas rare d'entendre, par exemple, ces domestiques qui reçoivent leurs copains chez vous quand vous n'êtes pas là, les installent dans vos salons. Ils font de bons repas que vous-même, vous ne faites plus. Ils dorment, ils prennent la télé, ils prennent tout parce qu'ils ont possession de votre maison en sachant l'heure de départ, l'heure d'arrivée, l'heure de retour. Et donc, ils programment les choses de façon à jouir pleinement de votre maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont réfléchi et ont commencé par mettre des caméras. Mais les caméras ne couvrent généralement pas toute la maison. Il y aura toujours un petit coin quelque part qui va leur permettre de se mettre à l'aise. Même si vous avez mis caméra partout, faites attention pour être sûr que vos provisions sont toujours avec vous. Des membres de leur famille passent de temps en temps pour recevoir des cadeaux que vous avez achetés pour eux sans savoir. Et donc, les domestiques deviennent un danger réel pour les propriétaires puisque c'est les personnes qui demeurent en contact avec vos biens quand vous n'êtes pas là. L'histoire racontera même que parfois, les domestiques fuient votre maison avec vos biens avant votre retour du service. Si on attrape ces domestiques-là, est-ce qu'on va considérer que c'est du vol simple ou est-ce que c'est du vol aggravé? Assurément que l'usage des moyens que nous-mêmes nous mettons à leur disposition et la précarité que nous créons avec un salaire qui est généralement sous le SMIC favorise cette intention-là. Et pire encore, si la maîtresse de maison est très difficile avec ces domestiques-là, qui parfois ne dorment pas beaucoup, mais se mettent au travail, ces domestiques veulent se venger. Elles se demandent, mais pourquoi je fais tout ça là et on ne me reconnaît pas? Et elles virent de comportement. Elles deviennent des voleurs très dangereux. Et surtout si elles se mettent en complicité avec le gardien, avec le jardinier, avec les autres personnes domestiques de votre maison. Trouvons donc l'occasion de peut-être discuter pour voir exactement ce qu'il faut faire pour que les domestiques ne changent pas de vie. Les domestiques, parfois c'est les personnes qui ont accès à vos bijoux, mesdames. Comptez les bijoux pour voir si le nombre est toujours là. N'allez pas en perdre et les accuser inutilement, certes. Mais c'est très facile pour ces dames-là de pouvoir vous piller à volonté. Et si vous-même, vous êtes très suffisamment dispersé dans votre esprit, vous ne vous rendrez compte généralement quand il serait tard. Et ces vols-là ont une simple raison. C'est le fait que vous avez donné les outils qu'il faut pour être volé par vous-même. C'est la raison pour laquelle nous dirons que parfois, ces dames-là ne volent peut-être pas pour se rendre justice, mais tout simplement parce que nous créons chez eux la convoitise par ce qui semble être la richesse que nous mettons devant leur nez. Il y a de ces patrons qui achètent de très belles choses à tous leurs enfants, mais oublie d'acheter une moindre chose à la domestique. On se dit, oh, elle travaille, elle est payée à la fin du mois, elle va se débrouiller. Mais est-ce que vous lui payez suffisamment pour qu'elle puisse le faire? Est-ce que vous laisserez vos enfants mettre à leur disposition ce que vos enfants n'utilisent plus? Est-ce que vous ne penserez pas que ces personnes qui travaillent pour vous n'ont aucun droit, n'ont aucun mérite? Allant jusqu'au mépris. Des mépris qui sont facilement transmis aux enfants et qui les exercent sur ces gens-là. Des enfants suffisamment mal éduqués qui parlent très mal à ces gens qui peuvent être leurs parents. Mais malheureusement, faute de moyens, ne sont que les domestiques de la maison. Et malheureusement, il y a de ces domestiques mal éduqués chez eux-mêmes avant de devenir domestiques qui sont des envieux, qui sont des jaloux, qui savent qu'ils ne méritent pas ce qu'ils veulent. Eux, par contre, quels que soient les cadeaux que vous leur ferez, ne vont pas hésiter à vous poignarder dans le dos. la faiblesse financière est une des causes et c'est souvent la cause la plus généralisée qui entraîne l'existence des voleurs dans nos sociétés. Les conséquences, les sanctions, les différents types de vols sont également des pistes sur lesquelles nous devons discuter. Et nous le ferons parce que la citoyenneté désigne le fait de bien vivre en société et donc le civisme nous recommande d'en parler de manière à ce que chacun corrige sa façon de vivre dans la société pour que le vivre ensemble soit un havre de paix dans nos familles. Pour aujourd'hui, civisme et droit du citoyen, c'est fini. Nous continuerons donc la prochaine fois avec les conséquences du vol. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse.